Et aujourd'hui, alors, j'aimerais vous partager quelque chose. Alors, normalement, c'est moi qui vais piloter la technique. Alors, excusez-moi, pour installer les choses. Voilà. OK. Donc, aujourd'hui, je voudrais vous partager un message qui est en fait sur mon cœur depuis le mois de janvier. Donc il a eu temps de mûrir. Et c'est un secret. C'est le secret pour être l'ami de Dieu. Ce secret, on va le découvrir au travers de la vie d'Abraham. Pourquoi ? Parce qu'Abraham a été appelé l'ami de Dieu. Et saviez-vous que Dieu voulait être votre ami ? Peut-être si vous êtes là pour la première fois, ça vous semble complètement fou que Dieu veuille être votre ami intime. En fait, il est dit dans sa parole, ce psaume magnifique qui est le psaume 139, qui dit « Ses pensées à ton égard sont plus nombreuses que les grains de sable au bord des mers. » Imaginez quoi ? Imaginez, les pensées de Dieu pour toi, pour moi, sont plus nombreuses que le nombre de grains de sable qu'il y a au bord des mers. Alors, je ne sais pas si vous êtes parti en vacances cet été, si peut-être vous avez été à la mer ou plutôt à la montagne. Moi, j'ai reçu cette année, c'était une année famille à fond. J'ai reçu deux de mes nièces à la maison. Et donc, leur plus grand bonheur, c'était bien sûr d'aller à la plage, quoi, à la mer. Et donc, quand on allait à la mer, j'ai découvert en fait comment les enfants abordent la plage et la mer. Je me suis régalée. Et donc, ce qui était trop rigolo, c'est qu'à chaque fois qu'on allait à la mer, on ramenait plein de choses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour elle, c'était une chasse au trésor. Elle cherchait deux choses. Elle cherchait les plus beaux coquillages et elle cherchait les plus belles pierres qu'elle pouvait trouver sur la plage. Et ce qui était trop rigolo, c'est que la première fois, du coup, tout d'un coup, il y a l'une de mes nièces qui crie, qui me dit « Tati Nanou !» Alors, c'est comme ça qu'elle m'appelle. Hein. Elle dit « Tati Nanou !» Je fais « Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ?» Je crois qu'il se passait quelque chose, quoi. Elle fait « Regarde !» Elle me montre ça, quoi. Et pour elle, je vous assure, j'ai cru qu'elle avait soit trouvé quelque chose de très grave, soit de l'or, quoi. Mais c'était ça. Elle fait « Mais il est trop beau! Est-ce qu'on peut le ramener à la maison, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut le ramener à la maison ?» Alors, peut-être vous qui êtes parents, vous souriez tranquillement parce que vous dites « Anne, elle découvre des trucs que nous, on connaît. » Et moi, ça m'a émerveillée. Bon, après, ça a fait chez moi tout un stock de pierres et de coquillages dont je me suis un petit peu débarrassée après qu'elle soit partie. Voilà. Puis, elles m'ont ramené des pierres qui étaient tellement blanches qu'elles brillaient. C'était l'émerveillement devant tout ce qu'elles trouvaient à la plage. Et donc, il y a quelques jours, j'ai rangé tout ça, je me suis débarrassée de ce stock de coquillages. Bon, j'ai vu qu'il restait plein de sable, en fait, dedans. Et j'ai repensé à ce fameux verset, quoi, que Dieu pense à nous, il a des pensées en plus grand nombre que les grains de sable. Et du coup, j'ai pris du sable, et je ne sais pas si vous imaginez ce verset, il dit « plus que le nombre de grains de sable au bord de toutes les mers ». Et donc là, avec moi, j'ai amené ce matin un verre rempli de sable. Je ne sais pas si vous voyez, je ne vais pas le boire, surtout pas, mais... Je vais vous demander, à votre avis, combien de grains de sable ça représente, ce verre ? 2 milliards, j'entends. Waouh, il y en a qui visent très haut, déjà. Est-ce que c'est 1 000, 2 000, 10 000 ? Vous avez une idée ? Alors moi, je ne savais pas non plus, mais je me suis dit, Seigneur, en fait, ta parole dit que tu as des pensées autant que... J'aimerais bien savoir, en fait, c'est combien de pensées que tu as à mon égard. Donc, en fait, je me suis renseignée. Merci à mon ami Google, qui m'a renseigné et qui m'a dit qu'il y a des chercheurs qui ont calculé la taille moyenne d'un grain de sable et qui ont calculé que dans un verre à peu près comme celui-là, il y a pas moins de 25 millions de grains de sable. Dans ça, 25 millions. Donc imaginez le nombre qu'il y a sur toute la Terre. C'est le nombre de pensées que Dieu a à votre égard. Et ce n'est pas une image, vous savez, c'est la réalité. Dieu pense à vous, il veut être votre ami intime, tellement proche. Dieu veut être votre ami. Mais de notre côté, comment nous être l'ami de Dieu ? J'aimerais qu'on s'attarde sur cette histoire d'Abraham, qui, comme je l'ai dit, il a été appelé ami de Dieu, mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il avait compris qui a fait qu'il est devenu l'ami de Dieu ? En fait, on voit dans Genèse 22 cette histoire où, je pense que ça a été l'épreuve la plus dure d'Abraham, parce que, je vais vous la raconter. En fait, Dieu, à un moment, va parler à Abraham et va lui dire, Abraham lui répond tout de suite, me voici. Il va dire, voilà, va sur l'endroit que je te montrerai et tu vas sacrifier Isaac. Isaac, c'était le fils que Dieu avait promis à Abraham, mais que Abraham avait attendu, vous savez pendant combien de temps ? Pendant 25 ans. Et une fois que ce fils est venu, c'était toute la promesse de descendance, de bénédiction qui était là sur la vie d'Abraham. Mais tout d'un coup, Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils. Juste incompréhensible. Et Abraham, qu'est-ce qu'il fait ? Le lendemain matin, tout de suite, il prépare un âne, il prépare tout ce qu'il faut, il emmène deux serviteurs et Isaac avec lui, et il se met en marche. Et la Bible donne ce détail que c'est le lendemain matin. Il n'a pas attendu avant d'obéir. Vous vous rendez compte ? Abraham, il n'avait pas la Bible, comme nous on l'a aujourd'hui, n'est-ce pas ? Abraham, il a vécu avant, peut-être 400-500 ans avant Moïse, qui, dans la tradition, serait l'auteur du Pentateuque. Le Pentateuque, c'est les cinq premiers livres de la Bible. Et donc Abraham, il n'avait pas la parole de Dieu ou la Bible pour dire « Ah oui, mais je sais que Dieu, il est fidèle. » Non, par révélation, il savait qu'il pouvait faire confiance à Dieu et il lui a obéi tout de suite. Et ensuite, il a marché pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Alors, en fait, en relisant ce texte, je me suis dit « Mais Seigneur, en 3 jours, il a eu le temps de réfléchir. Il a eu le temps de... L'angoisse a dû monter au fond de lui. » Il a eu le temps de, il aurait eu le temps de changer d'avis, n'est-ce pas ? De dire, bon, j'y suis allé, j'ai obéi tout de suite, mais finalement, je ne suis pas sûre. Franchement, je ne peux pas sacrifier mon fils. Mais il a continué. Et il est arrivé sur cette colline que Dieu lui avait montrée. Et là, son fils... Attendez, du coup, il faut que je me concentre sur ça aussi. Et donc, après 3 jours de marche, ils arrivèrent sur le lieu. Et son fils lui dit, mais... Et là, son fils a remarqué qu'il y avait un truc qui clochait. Il n'était pas bête. Il a dit à son père, attends, papa, je vois qu'il y a le feu, il y a le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ? Et là, Abraham répondit un truc juste extraordinaire. Il dit, mon fils, Dieu pourvoir à lui-même. Quelle foi il avait ! Quelle connaissance de Dieu, quelle révélation de Dieu. Il dit, mon Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste, et ils poursuivirent leur chemin. Et l'Épître aux Hébreux nous précise que Abraham, en fait, s'attendait à quelque chose. L'Épître aux Hébreux nous dit, il savait que Dieu était capable de ressusciter son fils. Waouh! Et donc, ils arrivent en haut de la montagne et Abraham, du coup, s'apprête, il ligote son fils, il s'apprête à le tuer, à le sacrifier. Quand tout d'un coup, il y a la voix de l'ange de l'Éternel qui se fait entendre et qui dit « Abraham, Abraham, non, ne touche pas ton fils. Maintenant, je sais que tu crains Dieu. Maintenant, je sais que tu crains Dieu parce que tu ne m'as pas refusé ton fils. » Et à ce moment-là, Abraham a vu un bélier complètement pris dans un buisson, et il a pris ce bélier à la place de son fils Isaac pour le sacrifier. Et la morale de l'histoire, la fin de l'histoire, c'est qu'il a dit ces mots tellement forts, qui sont pour nous aussi aujourd'hui, il a dit « Jéhovah Jireh, Dieu a pourvu, Dieu pourvoira ». Il a d'ailleurs donné ce nom à l'endroit de cette colline, « Dieu pourvoit toujours ». Dieu pourvoira. Et vous savez quoi ? En relisant cette histoire et en voyant ce que Dieu dit à Abraham à la fin, il lui dit, maintenant je sais que tu crains Dieu. En fait, le secret d'Abraham, le secret de l'intimité d'Abraham avec Dieu, c'est quelque chose de surprenant. Peut-être qu'on ne pense pas à ça quand on parle d'intimité avec Dieu. C'est sa crainte de Dieu. C'est sa crainte de Dieu. Alors, la crainte de Dieu, c'est sûr que ce n'est pas un sujet super populaire. Si je vous dis, voilà, je vais te parler de la crainte de Dieu, est-ce que tu veux qu'on aille parler de la crainte de Dieu? C'est quelque chose qui peut-être fait peur ou qui est connoté dur, qui est connoté difficile à entendre, difficile même à vivre. Ou peut-être même certains disent, non mais la crainte de Dieu, c'est pour les anciens prédicateurs très sévères, vous savez, dans des églises rigides, et puis on parlait de la crainte de Dieu, il faut craindre Dieu, mais bon, maintenant nous on est sous la grâce, et Dieu est amour, et donc on n'a plus à craindre Dieu. Des fois il y a cette idée peut-être qui est là en nous. Mais est-ce que Dieu change ? Parce que Dieu n'est pas un Dieu à craindre dans l'Ancien Testament et un Dieu à aimer dans le Nouveau Testament, en fait. Si vous lisez l'Ancien Testament, il est plein de l'amour de Dieu pour son peuple, c'est juste incroyable. Lisez le prophète Osée, par exemple, ou lisez le Deutéronome. Dieu aime son peuple, lui pardonne encore et encore, et lui donne pas seulement une seconde chance, mais une troisième, une quatrième, et tellement de chances. Dieu est un Dieu d'amour dans l'Ancien Testament déjà. Et dans le Nouveau Testament, on voit par exemple dans 1 Pierre 2,17, craignez Dieu. Ou on voit aussi dans les Actes, l'Église primitive, elle grandissait dans la foi et elle vivait dans la crainte du Seigneur. Je crois qu'il y a une clé pour notre intimité, pour notre croissance en tant qu'Église, mais aussi en tant qu'individu, de recomprendre, de ressaisir la crainte de Dieu comme une clé pour notre proximité, notre intimité avec lui. Alors, la crainte de Dieu, en fait, ce n'est pas, vous savez, ce n'est pas être terrorifié de lui, avoir peur de lui. Parce que ce qui conduit à cette peur, vous savez, la peur, elle nous fait nous éloigner finalement. Quand on a peur, quand Adam et Ève étaient dans le jardin, ils ont désobéi, ils ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? La voix de Dieu s'est fait entendre et ils ont eu peur, ils se sont cachés. Le péché fait ça dans vos vies. Le péché vous fait vous éloigner de Dieu, vous fait avoir peur d'un Dieu qui n'est pas à craindre, qui n'est pas à avoir, enfin, dont on n'a pas à avoir peur. C'est le péché qui fait ça. Et j'aimerais nous rappeler aujourd'hui que si nous sommes enfants de Dieu, nous n'avons plus à avoir peur. Nous avons été pardonnés. En fait, en Jésus, nous n'avons plus à avoir peur de la punition, d'ailleurs la punition légitime que normalement nous méritons. À cause de notre péché, Jésus a pris la punition sur lui et maintenant nous pouvons courir vers Dieu. Donc ce n'est pas cette peur, terreur, vous savez, qui nous fait nous cacher. La crainte de Dieu, ce n'est pas non plus l'esprit de peur. Vous savez qu'il existe un esprit de peur. Il existe cet esprit qui est un esprit mauvais, qui est un démon, qui est l'esprit de peur. Et j'aimerais nous rappeler, et rappeler aussi au monde spirituel, que l'esprit de peur n'a plus de place dans l'enfant de Dieu que nous sommes. C'est juste pas possible. L'esprit de Dieu maintenant est venu habiter en vous, l'esprit de peur doit s'en aller. Au nom de Jésus. En fait, le meilleur remède pour ce type d'esprit de peur, qui aimerait bien nous influencer, vous savez, mais c'est la véritable crainte de l'Éternel en fait, c'est ça le remède. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est avoir cette révélation de qui il est vraiment. En fait, d'être persuadé que Jésus est plus fort que le démon, que Jésus est tellement au-dessus de tous les démons réunis, les démons tremblent et s'enfuient. Ils savent qui est Jésus. Et Jésus est le plus puissant, le plus fort. Il est le lion de Juda. Il revient avec puissance. Et quand il revient, on lit dans l'Apocalypse qu'il revient avec puissance. C'est un guerrier. C'est plus l'agneau gentil. C'est le guerrier. C'est Jésus. Et peut-être il y a quelque chose dans vos vies qui vous tient, un esprit de peur. J'aimerais juste proclamer qui est Jésus ce matin. Au nom de Jésus, les démons s'enfuient. Au nom de Jésus, c'est juste sa personne, qui il est. Le nom de Jésus, ça veut dire ça. C'est sa personne. Il est Je vais lire dans Apocalypse 19, verset 11, à quoi il ressemble. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Et celui qui était monté dessus était appelé fidèle et véritable, qui juge et qui combat justement, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il avait sur sa tête plusieurs diadèmes, et il portait un nom écrit que nul n'a connu si ce n'est lui. Il était vêtu d'une robe teinte dans le sang. » Ça nous rappelle son sacrifice. Et son nom s'appelle la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Il est le Verbe incarné. Il nous parle. Il est Jésus. Et les armées qui sont au ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin blanc et pur. Et il sortait de sa bouche une épée tranchante pour en frapper les nations. Car il les gouvernera avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'indignation et de la colère du Dieu Tout-Puissant. Et sur son vêtement et sur sa cuisse étaient écrits ces mots, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est notre Jésus que nous servons. Amen. Est-ce qu'on pourrait louer Jésus pendant juste une seconde, l'acclamer, parce qu'il est Jésus et il nous a sauvés. Amen. Merci Jésus. La crainte de Dieu, c'est savoir qui est Jésus réellement. Il est redoutable. Il est redoutable pour nos ennemis, il est redoutable pour ces esprits méchants qui veulent nous influencer, qui veulent nous gâcher la vie. Il est redoutable, il est Jésus. Alléluia. Amen. Alors la crainte de Dieu, en fait, ce n'est pas avoir peur de lui, c'est avoir peur d'être loin de lui. C'est John Bevere qui dit ça comme ça, et j'aime cette formulation. Ce n'est pas avoir peur de lui, c'est avoir peur d'être loin de lui. C'est une question d'intimité. Je ne veux pas m'éloigner de mon Dieu. Et c'est ce paradoxe, en fait, que j'aimerais partager aujourd'hui. C'est que plus on craint Dieu, plus on est proche de lui. Ça peut paraître, ouais, paradoxal. Mais c'est la vérité de ce que nous dit la parole de Dieu. Pour être ami de Dieu, pour être proche de lui, il faut savoir qui il est vraiment. Il faut craindre qui il est vraiment. Et donc, dans cette histoire, dans cet exemple de ce qui s'est passé entre Dieu et Abraham, quand il lui a demandé de sacrifier son fils, on voit plusieurs clés de comment craindre Dieu de manière pratique dans nos vies. Parce que peut-être vous allez me dire, Anne, oui, moi je sais qui est Dieu, je veux le craindre, mais comment faire? Comment craindre Dieu plus? Comment être plus intime avec lui? Et on va voir 5 clés dans cette histoire qui nous montre comment craindre Dieu. En fait, ce qui s'est passé déjà au tout début de l'histoire, c'est que Dieu a parlé à Abraham et Abraham l'a écouté. Et il lui a dit tout de suite, me voici. Et la première clé que j'aimerais nous donner, c'est que la crainte de Dieu, ça nous fait dire, me voici. La crainte de Dieu, ça nous fait répondre oui tout de suite à Dieu. On ne va pas considérer peut-être nos sentiments, nos priorités, nos envies, mais on va écouter la voix de Dieu. C'est ce qu'il nous dit qui est le plus important dans nos vies. Et autant la peur, vous savez, elle fait qu'on se cache comme Adam et Ève dans le jardin. Mais la crainte de Dieu pour Abraham, il ne s'est pas caché, il lui a dit « oui, me voici ». Il n'a pas eu peur de la voix de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, n'aie pas peur de rentrer dans ta chambre et d'entendre la voix de Dieu. Ce sera la meilleure directive pour ta vie, ce sera la meilleure chose pour ta vie d'entendre vraiment ce que Dieu veut te dire. Arrête d'écouter d'autres voix, tes propres voix, c'est-à-dire la voix dans ta tête, tes propres pensées. Écoute la voix de Dieu et dis-lui, me voici, sois juste disponible. La crainte de Dieu, je pense qu'elle commence par la disponibilité, à lui dire, me voici. Ensuite, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Je l'ai dit tout à l'heure, hein, le lendemain matin. Si Dieu vous parle ce soir, demain matin, apprêtez-vous à faire quelque chose. Il y a une notion d'immédiateté. L'obéissance, ça c'est aussi un paradoxe merveilleux que Dieu nous enseigne dans sa parole, c'est que l'obéissance et l'intimité, et l'amitié avec Dieu sont fortement liées. En fait, nous, on a du mal, hein, Enfin, nous, je vais parler pour moi. Moi, j'ai du mal, hein, à obéir immédiatement. Je vais laisser les choses maturer dans mon cœur. Je vais dire, bon, peut-être que c'est Dieu qui m'a parlé. Je suis pas sûre, je vais voir. Bon, je réfléchis. Des fois, il peut se passer des semaines, des mois, des années avant que j'obéisse. Peut-être que je suis la seule, mais en tout cas, c'est terrible. Et je crois qu'on perd tellement de temps. Pourquoi ? Parce qu'on a peur de quelque chose qui n'est... On ne devrait pas avoir peur. On devrait avoir la crainte uniquement de Dieu. Pas la crainte de perdre quelque chose ou de faire ce que Dieu nous demande de faire. Je vous encourage à obéir immédiatement. En fait, Jean 15 dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et c'est Jésus qui parle à ses disciples. Il leur dit, je ne vous appelle plus esclave, je vous appelle ami. Donc lui, il veut être notre ami, on l'a vu. Lui, il veut être proche. Mais nous, de notre côté, nous avons quelque chose à faire pour être amis de Dieu. En fait, la Bible nous dit, faites ce que je vous commande et alors vous serez appelés mes amis. Et c'est ce qu'Abraham avait compris. Vous savez, ce n'est pas un enseignement légaliste. Oui, il faut que tu fasses, il faut que tu obéisses et alors tu auras quelque chose. C'est juste la loi spirituelle de comment Dieu fonctionne. On ne peut pas être appelé son ami et puis lui dire non, mais non, ça, je ne veux pas faire, ça, je ne veux pas faire. Il est Dieu. En fait, c'est ne pas oublier avec qui nous sommes amis. Nous sommes amis avec celui qui est notre Seigneur. Ce n'est pas non plus notre pote. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas lui qui nous obéit. C'est nous qui lui obéissons parce qu'il nous aime, il veut le meilleur pour nos vies. Donc la crainte de Dieu, ça fait qu'on lui obéit. Ensuite, dans l'exemple d'Abraham, on voit vraiment que la crainte de Dieu, ça fait qu'il nous révèle quelque chose de nouveau. Qui a soif de connaître quelque chose de nouveau de la part de Dieu ce matin ? Et ce qui se passe dans cet épisode de la vie d'Abraham, c'est qu'à la fin de l'histoire, qu'est-ce qui se passe ? C'est que Dieu, par amitié pour Abraham, va révéler quelque chose de nouveau à Abraham. Et ce nom de Jéhovah Jiré, qui veut dire Dieu pourvoit, n'avait jamais été donné à Dieu auparavant. C'est magnifique. Abraham a découvert une nouvelle facette de Dieu et du coup lui a donné ce nouveau nom que nous connaissons aujourd'hui des milliers d'années après, que nous utilisons, nous le prions, nous appuyons sur cette promesse, nous disons Dieu pourvoit, Dieu est un Dieu qui pourvoit, c'est son nom, c'est sa nature. Mais imaginez, c'est Abraham le premier à avoir connu cette facette de Dieu. Et donc, la crainte de Dieu fait qu'on découvre de nouvelles choses sur Dieu. En fait, le psaume 25 dit « L'Éternel confie ses desseins à ceux qui le craignent ». Il y a une autre traduction qui dit « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent ». Et l'amitié, le fait de confier des choses, des desseins, c'est le mot « sod » en hébreu qui veut dire en fait « divan ». C'est un divan, c'est-à-dire, c'est l'image d'un... Vous savez, on est tous les deux assis sur un divan et il me dit ses secrets. Il me dit ses intentions. Il me dit son cœur pour ce monde. Il me révèle pas juste des choses qu'il peut faire, mais il me révèle ses intentions. Et c'est ça l'amitié avec Dieu. C'est pas juste connaître de quoi il est capable, c'est connaître ce qu'il veut. Et je veux ça tellement pour ma vie, je veux grandir dans la crainte de Dieu. Je veux savoir quel est son cœur. Je veux pas juste dire, ah oui, peut-être qu'il va faire ça ou ça ou ça, parce que je sais qu'il en est capable. Mais je veux dans le secret, avoir ce cœur à cœur avec lui, où il me transmet son cœur. Vous savez que Dieu a des émotions, il peut être en colère, il peut être triste, il peut être en joie. Il a des choses à nous partager qui sont de l'intime. Et je veux connaître Dieu comme ça. Je veux connaître son cœur. Donc l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Et Abraham avait compris ça. Et il a connu Dieu d'une manière plus forte, plus intime, en l'appelant Jéhovah Jiré. Ensuite, Abraham, il a aussi connu Dieu plus. En fait, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Vous connaissez ce verset hein, dans Proverbes. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Il y a une autre traduction qui dit, en fait, c'est par la crainte de l'Éternel que commence la connaissance. En fait, le mot sagesse, ça veut plus dire connaissance. Mais ce n'est pas une connaissance intellectuelle, abstraite, je sais des choses sur Dieu, je peux réciter des versets par cœur, je connais Dieu, oui, il fait ça, il a dit ça, etc. C'est vraiment, c'est pas ça, c'est une connaissance intime. C'est le mot yada en hébreu. C'est une connaissance réciproque, intime, très, 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 très proche. D'ailleurs, c'est le même mot qui est employé pour un rapport sexuel entre un mari et une femme. C'est pour ça que dans la Bible, quand vous lisez « un tel connu sa femme », ça veut dire ce que ça veut dire. D'accord ? Ça veut dire connaître intimement. Et c'est cette connaissance-là que Dieu veut. Dieu, lui, il a déjà fait tout le chemin. C'est approché. Mais c'est toujours l'idée d'une connaissance réciproque, une intimité réciproque. C'est magnifique de pouvoir vivre ça avec Dieu, cette connaissance intime de notre Seigneur, quoi. Ensuite, la dernière chose qu'on apprend dans la vie d'Abraham et dans cet épisode en particulier, c'est qu'Abraham, il semble qu'il a été libéré de toute autre crainte parce qu'il craignait Dieu. Et j'aimerais nous dire que la crainte de Dieu, ça nous libère de toute autre crainte. Toute crainte qui est là dans votre vie, qui n'est pas la crainte de Dieu, doit s'en aller. Ce n'est pas possible que reste une crainte. Quand je dis que ce n'est pas possible, c'est que Dieu veut que vous craignez Dieu seul pour que les autres craintes s'en aillent. Et pourquoi on dit ça ? Parce qu'en fait, on sert qui on craint. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça ? Nous servons qui nous craignons. C'est une citation de Rebecca Piper qui a dit ça. Et en fait, autrement dit, ce que tu crains, ça devient ton Dieu. C'est pour ça que la Bible nous le dit. D'ailleurs, et je crois que c'est plus de 300 fois. Crains Dieu. Pourquoi ? Parce que, ben oui, ce que tu crains va devenir ton Dieu. Donc si tu crains autre chose que Dieu, ça veut dire que tu mets cette chose-là à la place de Dieu. Par exemple, si tu crains les hommes, je vais citer cette crainte qui est assez universelle en fait, la crainte de l'homme. La crainte, vous savez, de ce qu'ils vont penser. Le besoin d'approbation, le besoin de reconnaissance, cette crainte de l'homme, fait que l'homme, la vie de l'homme, ce qu'il pense de nous, est plus notre Dieu que Dieu lui-même. Et j'aimerais nous poser cette question ce matin. Est-ce que nous craignons Dieu ou est-ce que nous craignons l'homme ? Parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres, dit la Bible. Et la crainte de l'homme, vous savez quoi ? Ça nous paralyse. Ça nous fait faire des choses uniquement pour plaire, être approuvé. Donc elle nous paralyse, alors que la crainte de Dieu, elle nous libère. Alléluia. Et en fait, c'est la crainte de Dieu qui peut nous libérer de la crainte de l'homme. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, moi. Je suis née dans une famille chrétienne et mon papa était pasteur. Et donc, sans m'en rendre compte, en fait, toute mon enfance, toute mon adolescence, j'ai grandi avec, je pense, plus de crainte de l'homme que crainte de Dieu. Je m'en suis aperçue des années après, dans un travail profond que le Saint-Esprit a fait en moi. J'aimais Dieu, je me suis convertie à l'âge de 12 ans, vraiment c'était sincère, j'ai fait une vraie expérience avec l'amour de Dieu, avec son pardon, je lui ai donné ma vie, mais j'ai continué, je pense, à avoir cette espèce d'identité de fille de pasteur bien sous tout rapport, quoi. Et c'était pas conscient, mais c'était là. Pourtant, mes parents m'avaient jamais dit, tu sais, tu es la fille du pasteur, donc il faut surtout pas que tu fasses ça. Il faut que les gens pensent que tu es super, que tu es parfaite. Ils m'ont jamais mis ce fardeau. Et franchement, je les remercie, parce que il y a des familles pastorales où des fois, bon, il y a des choses qui ont été dites qui sont comme un poids. Mais moi, j'avais pas vécu ça de la part de mes parents. Mais moi, toute seule, je me suis mis cette espèce d'envie de plaire à tout le monde. Et ça, peut-être, ça parle à des jeunes ou à des moins jeunes. Mais cette envie de reconnaissance, en fait, qui humainement, elle est en fait légitime, elle est... Mais Dieu veut nous libérer de ça. Le seul regard qui est épanouissant, qui fait jaillir la vraie identité en nous, c'est le regard de Dieu. C'est l'approbation de Dieu. Et le Saint-Esprit, à un moment, m'a montré que peut-être j'attachais trop d'importance à ce que les gens pensaient de moi. Et à un moment, il y a quelques années, il m'a demandé de prendre une décision qui, je savais, allait, comment dire, mettre à plat ma réputation. Terrible quand Dieu fait ça, mais c'est tellement bon en fait. Parce que sur le moment, devant cette décision qui se présentait à moi, je disais, mais Seigneur, je ne peux pas. Regarde tout ce qu'ils vont dire sur moi. Regarde tout ce qu'ils vont penser. Je ne le verbalisais pas comme ça, mais je disais, mais Seigneur, quand même, ce n'est pas correct et tout. J'essayais d'être spirituelle, même seule dans ma chambre avec lui. Hein. Des fois, on est comme ça. Hein. Et en fait, il m'a révélé qu'au fond de moi, j'avais peur pour ma réputation. Là, j'étais là, quoi ? Moi ? Et en fait, c'était tellement... Vous savez, quand Dieu nous parle, c'est vrai. Il ne faut pas résister longtemps. Et je me suis rendu compte que j'avais, face à cette décision, j'avais peur pour ma réputation. J'avais peur que les hommes, d'un certain mouvement d'église, pensent quelque chose sur moi qui allait mettre ma réputation à plat. Et le Seigneur m'a dit, et quand bien même, à qui tu veux plaire ? Oh. C'est sûr que c'est ce jour-là que j'ai pris ma décision. Ça m'a aidée. En fait, vous savez, quand Dieu, dans sa sainteté, le fait qu'il connaît tout, vient nous reprendre, c'est toujours pour le bon. La correction de Dieu, elle est pour notre épanouissement, une meilleure vie. Et je lui ai demandé pardon. Et j'ai dit oui, j'ai dit, Seigneur, tant pis si toute la France entière pense que je suis quelqu'un d'horrible. Tant pis. Je sais ce que tu me demandes de faire, je le fais. Et Dieu est un Dieu qui donne, qui récompense. Il récompense. Et vous savez, notre réputation, ce n'est pas les hommes qui la construisent. Certains peuvent essayer de la détruire, peuvent dire des choses sur vous. Mais si Dieu est avec vous, qui sera contre vous ? Vous n'avez rien à craindre, vous avez à craindre Dieu seulement. Vous n'avez rien à craindre, vous avez à craindre Dieu seulement. Et je n'ai pas regretté cette décision, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'on craint beaucoup trop les hommes parce qu'on craint Dieu si peu. Si vous voulez être délivré du « quand dira-t-on », craignez Dieu. Regardez à Dieu, regardez à qui il est vraiment. Et c'est magnifique parce que plus on craint Dieu, c'est-à-dire plus on le connaît, plus nos peurs, nos autres peurs, elles diminuent et elles s'en vont. En fait, dans une relation approfondie avec Dieu, eh ben les peurs s'en vont. Pourquoi ? Parce que la crainte de Dieu, ça amène la connaissance de qui il est vraiment. Donc on est en paix, on sait qu'on peut lui faire confiance. On sait qu'on peut lui faire confiance, on n'a rien à craindre. Et notre connaissance de lui, elle grandit. Notre compréhension de lui, elle grandit. Notre intimité avec lui, elle grandit quand on le craint. Et donc, on lui fait plus confiance. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et trouve un grand plaisir à ses commandements. Qu'est-ce qui se passe pour cet homme ? Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Il a le cœur tranquille, confiant en l'Éternel. Psaume 112. Magnifique. Donc, j'aimerais, pour conclure, vraiment nous appeler, nous inviter à craindre Dieu aujourd'hui et à ne plus voir la crainte de Dieu comme quelque chose qui fait peur, qui est terrible, qui est dérangeant, mais que vraiment nous ayons soif de plus craindre Dieu, d'être l'ami de Dieu, d'être plus intime avec Dieu. Et j'aimerais simplement qu'on puisse... Vous savez, la crainte de Dieu, c'est comme la marche avec Dieu, la confiance en Dieu, c'est un processus, c'est chaque matin un choix de continuer à craindre Dieu. Et donc, j'aimerais qu'on s'engage ensemble, si vous le voulez, je vais juste vous proposer de montrer à Dieu de manière physique, en nous levant à notre place, de dire « Seigneur, je choisis de te craindre toi seul. » Si vous voulez délivrer de la peur du lendemain aussi, peut-être en cette rentrée, il y a des choses incertaines. Il y a des choses qui vous font peur. C'est quand même particulier cette année, n'est-ce pas ? Cette rentrée pour les enfants, pour les parents, peut-être vous avez votre job. Il y a des choses qui sont là. Mais vous n'avez rien à craindre si vous craignez Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse déposer nos craintes et dire à Dieu, je m'engage, Seigneur, à te craindre toi seulement. Je veux te connaître toi seulement. Je veux être comme Abraham. Je veux être comme Abraham. Donc, dis comme Abraham, me voici, quand il te parle. Comme Abraham aussi, obéis-lui immédiatement. Et puis aussi, si tu lui as obéi, mais que tu as fait demi-tour, reviens sur le chemin de l'obéissance. Reviens. Reviens. Ton père est là, il t'attend les bras ouverts, comme le père du fils prodigue. Ensuite, comme Abraham, découvre une nouvelle facette de Dieu. Découvre qu'il est fidèle. On l'a chanté. Il est fidèle, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ce Jésus que nous servons. Il est le même. Tu peux lui faire confiance. Il est Jéhovah Jireh. Et puis, crains Dieu comme Abraham pour être libéré de toute autre crainte. Alors, qui voudrait ce matin ? Moi, je suis la première à me lever. Je suis la première à être travaillée depuis toute cette année 2020, en fait, sur ma crainte de Dieu, c'est-à-dire savoir qui il est vraiment. Vous savez, craindre Dieu, c'est haïr le mal, dit la Bible aussi. C'est aimer le bien et haïr le mal. C'est être comme Dieu, c'est avoir le même cœur que Dieu. Alors, si vous voulez devenir intime avec Dieu, si vous voulez devenir son ami. Lui, il vous invite, il dit, je veux être ton ami. Je pense à toi tellement de milliards, de milliards, de milliards de fois. Mais toi, la balle est dans ton camp, mon ami, pour devenir mon ami. Il faut que tu saches qui je suis vraiment. Est-ce qu'il y a peut-être aussi une crainte dans votre vie ? J'aimerais que par cet acte, qu'on puisse se lever et dire, Seigneur, je te crains toi, viens prendre mes autres craintes. Je sais que tu es Jéhovah Jireh, tu pourvoiras. Je me lève, Seigneur, pour dire aux autres craintes qu'elles n'ont plus de place dans ma vie. Je me lève pour dire, je sais en qui j'ai cru. Je sais que tu es Jésus redoutable, que tu es plus puissant que tout ce qui peut me faire peur dans ma vie. Je veux craindre Dieu seulement. Je veux servir Dieu seulement. Il y en a assez de toujours penser à ce que les autres vont penser de moi. Seigneur, toi, qu'est-ce que tu penses de moi ? Alléluia. Et que le Saint-Esprit aussi maintenant vienne juste pointer du doigt. Peut-être cette peur qui est pas la bonne peur dans ton cœur et qui vienne la remplacer. En fait, j'aimerais qu'on prenne un moment dans le silence et qu'on regarde à Dieu, qu'on lui demande de nous révéler qui il est vraiment. Nous ne pouvons pas craindre, vénérer, honorer un Dieu que nous ne connaissons pas. Nous avons besoin d'une révélation de qui il est. La crainte de Dieu, c'est aussi la révélation, bien sûr, de sa toute-puissance, mais aussi de son amour. Son amour pour toi, il est tellement grand que tu n'as rien à craindre. Alléluia, Saint-Esprit, viens parler à nos cœurs. Nous te confions toutes nos craintes. Jésus, Jésus. Jésus. Alléluia. Il y a un échange qui veut se faire maintenant. Un échange. Confie-lui ta crainte. Et tu recevras la crainte de Dieu dans ton cœur. Tu recevras cette révélation comme Abraham. Et un échange. Viens lui déposer un truc qui est trop lourd pour toi à porter. et viens prendre ce joug qui est léger, de l'intimité, de la proximité avec un Dieu que tu vénères, que tu crains, tu réalises qui il est. Tu réalises qui il est. Jésus. Merci Seigneur de ce que tu nous apprends à déposer nos craintes, tu nous apprends à te faire confiance. Seigneur, c'est une marche chaque jour. Seigneur, je te prie que chaque personne qui est là devant son écran ou qui est là en présentiel ici apprenne à être plus intime avec toi. Être ton ami, à savoir que ton cœur est un cœur de père, mais un père puissant qui est digne, digne, digne d'être craint, d'être vénéré, d'être approché. Dieu est avec nous, Jésus est avec nous chaque jour. Tu n'as pas à craindre demain, c'est-à-dire littéralement demain, lundi. Tu n'as pas à craindre les prochains jours. Dieu, Jéhovah Jiré, est celui qui pourvoit. Il pourvoit. Il va pourvoir. Amen. Amen. Alors si peut-être il y a quelque chose qui vous a touché ce matin ou si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à prendre encore un temps avec le Saint-Esprit, peut-être là où vous êtes. Nous allons nous séparer, mais vraiment que Dieu continue en fait. La présence de Dieu ne s'arrête pas au moment où on éteint les lumières et les micros. La présence de Dieu, elle va avec vous. Et vraiment que cherchez Dieu. Dites-lui, Seigneur, de mes propres forces, je n'y arriverai pas, mais Seigneur, je veux te craindre, révèle-toi à moi. Et il va le faire, il va le faire. Il y a quelque chose de nouveau que vous allez découvrir de la part de Dieu. Je le sais, je sais que cette prière, quand on la fait à Dieu, qu'on dit « Seigneur, montre-moi qui tu es », il le fait. Amen. Amen. Alors merci vraiment pour votre présence ce matin. Prenons le temps, même si c'est toujours avec les masques et tout, mais prenons le temps de nous saluer, de prendre des nouvelles les uns des autres. Je crois que Dieu veut être notre ami et il veut aussi qu'on soit amis au sein de l'Église, quoi. Nous sommes l'Église et vraiment prenons le temps de prendre des nouvelles les uns des autres. S'il y a des questions ou besoin de prière, n'hésitez pas aussi à venir nous voir et que vraiment le Seigneur vous bénisse. Passez une excellente semaine. On se retrouve donc pas ce mercredi mais dimanche prochain à 11h et que vraiment vous passez un bon dimanche. Voilà. À bientôt, les amis.